Bonjour à tous. Londres et le sud-est de l'Angleterre reconfinés parce que la nouvelle souche du coronavirus était hors de contrôle. Déclaration ce matin du ministre de la Santé britannique, Matt Hancock. Londres et le sud du pays sont depuis hier soir placés en niveau de confinement le plus strict. Nous serons à Londres dans un instant. L'Europe se prépare à un Noël classé rouge sous coronavirus. Plusieurs pays, dont la France, envisagent de suspendre les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni. L'Italie se reconfine à partir de demain. En France, dans cet horizon sombre des fêtes de fin d'année sous pandémie, une étude pointe un risque de troisième vague en janvier. Invité de ce journal, le sociologue Jean Viard pour évoquer ces fêtes de fin d'année en période de tragédie et de coronavirus. Dans ce journal également, nous irons en Centrafrique où l'inquiétude est grande à une semaine de l'élection présidentielle. Des groupes armés marchent sur Bangui, la capitale. Enfin, en sport, le rendez-vous, le bol d'air à suivre aujourd'hui, c'est la finale de handball entre la France et la Norvège. Les Françaises vont tenter de conserver leur titre. La météo, de la pluie sur l'Est et la Côte d'Azur, des éclaircies à l'Ouest, température douce. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
L'actualité aujourd'hui est particulièrement lourde. Londres d'abord. Londres, ville fantôme du coronavirus. Depuis hier soir, Londres et le sud-est de l'Angleterre sont placés en niveau de confinement le plus strict. À Londres, les rues sont vides, les déplacements interdits, les magasins fermés et les courses de Noël terminées. Ce matin, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a expliqué que le reconfinement a été décidé hier parce que la nouvelle souche de coronavirus était hors de contrôle. Londres reconfiné pour éviter une troisième vague. Reportage Maxence Peignet.
Ce matin, Londres avait des allures de ville déserte. Comme Boris Johnson l'a annoncé hier soir, la capitale et le sud-est de l'Angleterre sont désormais en niveau d'alerte 4, un échelon nouvellement créé pour faire face à la situation sanitaire. Les restrictions sont semblables à celles d'un confinement total, avec fermeture des commerces et consigne de rester à la maison. Pour beaucoup, Noël aura cette année un goût amer.
Moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais en train d'emballer les cadeaux pour ma famille et mes amis. J'étais censé rentrer dans le sud-ouest la semaine prochaine et maintenant je suis coincé. On n'a pas eu le temps de s'adapter aux nouvelles règles. Je connais des gens qui ont quitté Londres dans la nuit, mais je ne pouvais pas faire pareil, donc je suis bloqué ici pour Noël.
Ce qui inquiète bien sûr les Londoniens, c'est aussi la découverte d'une nouvelle souche du virus. Selon Boris Johnson, elle serait jusqu'à 70% plus infectieuse.
C'est assez alarmant. Est-ce que ça va être encore pire que ce que l'on a à l'heure actuelle si c'est plus contagieux? J'ai un peu peur.
Pour ce Parisien, le risque est de ne pas pouvoir rentrer en France.
Non, j'ai peur avec cette nouvelle source du virus. Elle a l'air beaucoup plus contagieuse. Et en vrai, je dois rentrer à Paris dans deux jours et je ne sais pas si je vais pouvoir. Je ne sais pas si mon vol va être annulé ou pas. Donc j'ai très peur pour Noël cette année.
Londres, Maxence Peignet, France Inter.
Londres et le Royaume-Uni qui sont par ailleurs et pour ainsi dire en quarantaine européenne. La France et l'Allemagne envisagent par exemple de suspendre les vols en provenance de Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni s'achemine vers un long confinement, sans doute jusqu'à l'arrivée d'un vaccin diffusé plus largement. Et l'Allemagne, de son côté, enregistre sur une semaine un record de décès dus au coronavirus. Nos voisins européens prennent tour à tour des mesures de restriction face à la progression de l'épidémie. L'Europe se prépare à un Noël classé rouge sous Covid, Bertrand Galichet.
Parmi les pays qui passeront Noël sous confinement, l'Allemagne, où les écoles et les commerces non essentiels ont fermé mercredi dernier, alors que la gestion de la pandémie depuis le printemps était souvent présentée comme exemplaire. Cette semaine, 83% des lits de réanimation sont occupés dans les hôpitaux allemands. Les modalités de couvre-feu et les restrictions de déplacement varient selon les Länder. Des assouplissements sont prévus du 24 au 26 décembre. Confinement différencié également en Espagne en fonction des régions. Le couvre-feu sera allégé les 24 et 31 décembre. Les restaurants limitent leur nombre de clients et les horaires sont réduits. L'Italie, où la contamination explose, se reconfine pour les fêtes à partir de demain et jusqu'au 6 janvier. Les déplacements entre les régions seront interdits. Les bars et restaurants garderont porte close. En Suède, face à la deuxième vague de Covid-19, les autorités recommandent pour la première fois le port du masque dans les transports publics et s'inquiètent des grandes réunions qui pourraient être organisées à Noël. Mais la fermeture complète des restaurants et magasins n'est pas envisagée.
Bertrand Galichet. Et puis sur France Inter, une page complète sur l'Europe qui se prépare à un Noël sous coronavirus. franceinter.fr. Cette nouvelle variante du virus dont on parle beaucoup en ce moment et qui aurait infecté plus d'un millier de personnes en Angleterre, cette nouvelle variante du virus est particulièrement surveillée et étudiée par les scientifiques. Concernant la vaccination, à ce stade, les mutations du virus n'altéreraient pas l'efficacité des vaccins. Je vous propose d'écouter Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille.
Alors, il faut savoir que c'est un virus qui a déjà été repéré par les Anglais depuis le mois de septembre. Ce qui se passe actuellement, c'est que dans les repérages et les séquences spécifiques qui sont faites par leur centre de détection, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, aux alentours depuis le début du mois de décembre, près d'une infection sur cinq, en particulier dans le sud-est du Royaume-Uni, correspond à ce nouveau variant. Alors, il faut savoir qu'il y a des mutations dans le virus du SARS-CoV-2 depuis qu'il existe. On en a recensé à peu près 4000. La plupart, ou quasiment toutes, n'ont aucun effet particulier ni sur la vitesse de transmission, ni sur la virulence, c'est-à-dire la gravité de la maladie qu'il va entraîner. Or là, ce qui inquiète les Anglais, c'est le fait que depuis environ une quinzaine de jours, ils ont l'impression de retrouver plus fréquemment cette forme que les formes habituelles, et ils pensent que c'est une forme qui est née en Angleterre, qui a muté directement en Angleterre.
Philippe Amouyel, ce matin, chez nos confrères de France Info, et dans cette succession de nouvelles malheureusement alarmantes et angoissantes, une étude pointe un risque de troisième vague dans moins de 3 semaines, dès le 7 janvier. Selon les projections du CHU de Nancy et de la Fédération hospitalière de France, le nombre de lits occupés dans les services de réanimation serait, dès janvier, proche du pic observé en novembre dernier. Cette crainte d'une troisième vague est très présente, en particulier en région Bourgogne-Franche-Comté, une situation qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, prévient Pierre Pribil, directeur général de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.
Bien sûr, elle est très présente, cette crainte d'une troisième vague, en particulier dans notre région. Mais la suite, elle n'est pas écrite, elle n'a rien d'automatique, il n'y a pas de fatalité. Tout dépend du comportement de chacun. Le message, c'est de ne pas baisser la garde. Alors, c'est difficile de ne pas baisser la garde dans un moment de convivialité, de retrouvailles familiales, mais ne pas baisser la garde, ça veut dire garder comme réflexe ceux qui sont devenus ceux de notre quotidien, les gestes barrières, la limitation des contacts. Alors, bien sûr, on a tous en tête le fameux repas de famille. Le mot d'ordre pour ce repas de famille, si on l'estime absolument incontournable, et c'est le cas dans de nombreuses familles, c'est d'être le moins nombreux possible. Vous savez, il y a une référence qui a été fixée de 6 adultes maximum. Ça n'est pas un objectif, on peut être moins. Et d'espacer au maximum les convives, d'aérer la pièce et de garder le masque le plus souvent possible.
Pierre Pribil avec Matteo Maestrachi. Invité de ce journal, Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po CNRS. Jean Viard, vous venez de publier le livre « La page blanche » aux éditions de l'Aube. Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Alors avec cette succession d'informations, il faut bien le dire, très angoissante, notamment au niveau européen aujourd'hui, on est très loin d'un Noël fêté dans l'insouciance. Jean Viard, comment mettre le maximum de bonheur, d'espoir et d'envie de se retrouver et de se voir dans une fenêtre aussi étroite que 24 heures qui comprend le réveillon de Noël et le jour de Noël?
Non, mais c'est une année tragique. Alors forcément, ce Noël va être pour beaucoup de gens tristes. Il y a plein de gens qui vont rester tout seuls. N'oublions pas aussi tous les nouveaux pauvres qui vont pas faire de cadeaux, etc. Je dirais, il y a ceux qui vont moins se voir et puis il y a tous les autres. Non, mais ça va être un Noël triste. Ça va être un Noël en même temps. Ceux qui seront autour de la table, je pense que ils seront très heureux de se retrouver. Et puis, il y a des gens qui vont pas respecter les consignes. C'est pour ça qu'il y aura un pic en janvier. Donc, il faut dire, attendez, ben, c'est très simple. Si vous respectez pas les consignes, le pic va augmenter. Donc, il y a tout ça. Et en même temps, ben, Noël, c'est la fête des enfants, c'est essentiel, je dis les enfants, c'est la vie dans cette période tragique, il y a des morts, on a dépassé je crois les 60 000 morts en France, après on n'est pas loin de 2 millions sur la planète, ben, il faut fêter la vie. Voilà, donc c'est tous ces paradoxes-là, mais je voudrais dire une chose, si vous voulez, en même temps, si on fait une allégorie avec l'étoile du berger, les valeurs chrétiennes pour ceux qui les ont, quelque part on a un peu la lumière avec le vaccin. Donc, si vous voulez, si on n'avait pas de vaccin et qu'on était sur Noël, on nous dit simplement, attendez, ça augmente partout, il y a des morts en Allemagne, il y a des morts, on serait complètement angoissé à ce... D'ailleurs, il y a déjà des gens angoissés. 20% des Français m'ont l'air d'être tombés dans l'angoisse la plus totale. Oui. Mais si vous voulez, on a une petite lumière au bout du tunnel. Essayons de nous cramponner sur la petite lumière.
Et cette lumière dont vous parlez, ce vaccin, c'est peut-être ce qui va illuminer ou allumer en tout cas le jour sans fin dont parlait Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, je pense qu'on va aller autant qu'on peut le savoir aujourd'hui, parce que tout peut muter, etc. Autant qu'on peut le savoir aujourd'hui, on va avoir une année 21 double, quoi. Il va y avoir 6 mois d'engueulade sur le vaccin, j'en ai pas pris, y compris c'est toi qui as filé le truc à grand-mère. Bon, ça va être pénible pendant 3 à 6 mois. Et puis, normalement, en mai-juin, juillet, on va avoir une explosion de joie de vivre, quoi. Et vous savez, dans les grandes ruptures comme ça, heureusement qu'à chaque fois après, il y a un désir de vivre, de créer des entreprises, de faire l'amour, de se rencontrer, etc., qui est extraordinaire. Donc, essayons de se dire, et moi je dis aux gens, mais attendez, c'est le moment de créer des entreprises, c'est le moment de repeindre ton restaurant, c'est le moment de il faut se mettre dans la tête que dans 6 mois, on va avoir une envie de vivre phénoménale et que donc, y compris, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'économies. Il y en a beaucoup qui ont plus un sou et plus une grosse partie. Donc, comment on relance la machine à toute vitesse avant l'été prochain? Je pense qu'il faut se mobiliser là-dessus pour avoir une perspective parce que sinon, c'est vraiment trop dur à vivre.
Jean-Bierre, il y a un mot, un terme, une expression qui a disparu et à l'occasion de ce deuxième confinement, j'arrive pas à dire second, j'ose pas dire second, mais qui était très présente lors du premier confinement au printemps dernier. C'était, on parlait beaucoup du monde d'après, sur tous les plans, en politique, en économie, en commerce. Et là, aujourd'hui, le monde d'après, plus personne n'en parle.
Oui, ben c'est moi, c'est fait un livre pour essayer de le décrire, mais si vous voulez, effectivement, le premier confinement, on avait l'impression que c'était un tunnel, on va dire les choses comme ça. Donc, on parlait de la sortie du tunnel. Et puis, on s'est rendu compte que c'était pas un tunnel. Beaucoup de scientifiques nous avaient prévenus, mais vous savez, l'espoir, on croit toujours que ça va marcher. Donc, y compris les gouvernants, au fond, en septembre, août, septembre, ils se sont dit, bon, allez, ça va passer, n'en parlons plus, etc. Bon, ça n'est pas passé, hein. Et donc, effectivement, là, ce coup-ci, on va pas nous refaire le coup. Mais nous, on doit se dire, oui, il y aura un monde d'après. Oui, la révolution numérique, elle a explosé. Oui, on a pris conscience que la question climatique et écologique était centrale. Vous voyez, il y a tout ça. On a pris conscience que la mondialisation, c'est un truc génial, mais il faut la réguler. On peut pas faire venir des masses qui valent 3 centimes du bout de la planète. C'est totalement imbécile. Donc ça, on en a pris conscience. Et puis, vous savez, on s'est aussi beaucoup manqué les uns aux autres, mais on s'est aussi beaucoup aimé les uns les autres. C'est-à-dire que ceux qui sont restés ensemble, ceux qui ont construit, les gens ont inventé des façons de vivre, et toute cette créativité individuelle, y compris dans l'intimité, des familles, des couples, comment on s'occupe des enfants, etc. Il faut le dire aussi parce que je pense que la société a beaucoup bougé, qu'on sera très surpris de la société de 2022, si je peux le dire comme ça. Je parle pas en politique, hein. Je parle de manière très globale. Je pense qu'on va être surpris de la sortie de crise, comme on est chaque fois surpris. Mais le rôle d'un sociologue, c'est de dire, attendez, après une crise, il y a effectivement à nouveau de la force. Et c'est cette force vers laquelle il faut tendre.
Et c'est le monde d'après dont on ne parle plus, mais qui est inévitable et qui va se créer, c'est ça?
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, regardez, alors on n'en parle plus. Je lisais ce matin une interview de Thierry Breton, le commissaire européen. Ils sont déjà complètement dans le monde d'après, par exemple en matière numérique. Regardez comme aux États-Unis, on est aussi en train de se dire, attendez les GAFA, tout ça, il faut les cadrer ces gens-là, parce que c'est pas possible. Bon, regardez comment on a tous pris conscience que ce petit virus, c'est-à-dire au fond c'est la nature qui a échappé à notre civilisation scientifique et technique. Et quelque part, on n'y croyait pas vraiment. On savait bien qu'il y avait le réchauffement climatique. Mais au fond, on triait nos déchets sans se dire que ça allait changer le monde. Je crois que là, on a compris que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. Et ça, c'est une alerte extraordinaire, si vous voulez. Alors, il faut faire attention, il y a des morts, des victimes, des malades, etc. Mais quand même, il y a là une prise de conscience du fait qu'au fond, on va dire, Descartes avait tort et Rousseau avait raison, pour le dire en termes un peu pédants, c'est-à-dire effectivement, l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, l'homme est un animal parmi les autres, et si l'homme veut survivre, il faut qu'il change son rapport à la nature. Et ça, on est 5 milliards à l'avoir compris en même temps. Moi, si vous voulez, je suis fasciné par le fait que 5 milliards d'hommes se battent dans la même direction, au même moment, plutôt que de s'affronter les uns avec les autres. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'homme, et ça, il va falloir en faire une force.
Merci. Merci beaucoup, Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF, votre livre « Les pages blanches » aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup. Pour les commerçants, cette période de Noël représente un bol d'air économique. Dernier week-end avant le réveillon, le plus gros de l'année. Hier samedi, la plupart des commerçants et des artisans expliquent être satisfaits, avoir fait une très belle journée. Beaucoup de monde dans les centres commerciaux. Le chiffre d'affaires était, selon Christian Bolme, président de l'Association Commerçants et Artisans de France, assez important. On écoute Christian Bolme.
Nous espérons qu'aujourd'hui, ça va se poursuivre. Le chiffre d'affaires était là, les gens étaient là. Tout le monde s'est rué ce week-end sur la grande distribution, dans les centres commerciaux et dans les cœurs de ville. Donc ça a fait beaucoup de monde, beaucoup d'embouteillages. Mais d'une manière générale, le budget reste à peu près identique à l'année dernière. Le panier moyen est identique. On est partagé entre ceux qui sont en télétravail et qui ont de l'argent et qui n'ont plus de resto, qui sont pas sortis, et puis ceux qui étaient en chômage partiel et qui n'ont eu que 84% de leur salaire. Donc ça fait un espèce de mix qui fait que c'est un samedi à peine identique à celui de l'année dernière. Nos cœurs de ville ne redeviendront des cœurs de ville que quand on aura et les restaurants et les bars et les magasins ouverts tous ensemble. C'est ça une ambiance festive, c'est ça l'ambiance des cœurs de ville.
Christian Bolm, ce matin, chez nos confrères de France Info. Cette épidémie de coronavirus a des conséquences dramatiques sur l'économie et les bars, les restaurants, les lieux culturels sont toujours fermés. Le chômage partiel est devenu la règle dans beaucoup d'entreprises. Et en cette période de vacances, les stations de ski souffrent particulièrement, tout comme les parcs de loisirs, le Futuroscope ou le parc Astérix qui prévoit 10 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires. Une catastrophe pour ce parc avec 1 million de visiteurs en moins cette année. Reportage au parc Astérix dans l'Oise, Victoria Coussa.
À l'entrée, l'immense statue d'Astérix sur son rocher scrute le parc désert.
Lui contemple d'habitude l'arrivée des visiteurs, donc là, malheureusement, la rue est vide.
Guy Vassel, le directeur adjoint du village gaulois, qui devait attirer à partir d'aujourd'hui 200 000 visiteurs jusqu'à la fin des vacances. Là, il n'y a plus personne depuis un mois et demi.
D'habitude, c'est des cris d'enfants, c'est des cris dans les attractions, c'est la musique du parc qui est très importante pour l'immersion. Donc effectivement, ce silence est très différent. Tout était prêt pour Noël, hein, les guirlandes, les sapins. Habituellement, on a de la neige artificielle qui tombe à l'arrivée des visiteurs et au départ des visiteurs. On a rangé les canons à neige.
Dans les frigos des restaurants, tout le stock d'Halloween et de Noël. David Bouvet dirige la restauration.
Pas mal de boissons parce qu'on avait des boissons. Les dates allaient jusqu'à, par exemple, fin février, fin mars. Des papillotes, on va avoir des sucettes Père Noël. Donc là, on donne tout aussi au restaurant du cœur pour que les personnes puissent en profiter. Ça représente presque un smirmort. Plus de 20 palettes. On va être aux alentours des 50 000 euros de marchandises données pour les Restos du Cœur.
Entre ça et tout le reste, le parc table sur 10 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires cet hiver. La plupart des salariés sont au chômage partiel, 800 en tout. Les seuls qui retournent sur le terrain assurent notamment la maintenance, démontent et nettoient les manèges. Philippe Dacosta gère une quarantaine de techniciens.
Il faut plus surveiller les attractions quand elles sont à l'arrêt. Quand elles fonctionnent, en fait, elles sont rodées, donc du coup, elles tournent en permanence, donc tout est huilé. Quand c'est à l'arrêt, l'huile ne tourne plus, plus rien n'est graissé. On doit tout mettre en œuvre justement pour que ça puisse passer l'hiver serein.
Et pour que tout soit prêt le jour de la réouverture prévue par la direction début avril, si d'ici là les chiffres de l'épidémie le permettent.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
À l'étranger, la situation en Centrafrique et plus particulièrement à Bangui, la capitale, est inquiétante. La Centrafrique vote dans une semaine pour des élections présidentielles et législatives et on a appris que des groupes armés marchent sur Bangui. Le gouvernement parle de coup d'État en préparation. La population craint des pillages, l'ONU craint des violences. Des casques bleus ont été déployés près de Bangui. À Bangui, reportage Charlotte Cousset.
Freddy, un soldat, est posté devant un bâtiment sensible de la capitale. Il a l'oreille scotchée à sa radio, il attend les nouvelles.
On attend ce qui va venir et on verra ce qui va se passer. La population centrafricaine est vraiment déçue de ce comportement-là par rapport aux situations qu'on avait vécues dans les années passées. Et vraiment, ça ne fait pas du bien.
Les populations circulent dans Bangui, mais le cauchemar de 2013 n'est pas loin. Les pillages et les tueries sont encore dans toutes les têtes. Ismaël tient une petite boutique de paris sportifs.
Ça fait peur. Il y en a peur de pillage et surtout, ils vont créer des désordres partout. Et il y a aussi, ils vont tuer des gens. Mais comme ils ont fait la fois passée, il y avait des morts, des blessures. On ne veut pas le vivre ça.
Les patrouilles de la force onusienne sont renforcées dans la capitale et ses abords. Des renforts militaires venus de pays partenaires sont attendus. Bangui, Charlotte Cosset, RFI pour France Inter.
Et puis en sport, l'événement du jour, c'est la finale de l'Euro de handball et les Françaises veulent rester les Miss d'Europe. Les Bleus vont tenter de conserver leur titre face aux Norvégiennes. Pour les Françaises, c'est la troisième finale en trois ans. Elles avaient battu la Norvège en finale du Mondial en 2017. Philippe Bana, président de la Fédération française de handball et premier supporter des Bleus.
Sur ces 6-7 dernières années, c'est effectivement les deux équipes qui ont marqué l'histoire avec un côté glacé, fort, puissant des Norvégiennes, un côté un petit peu polyvalent, habile, intelligent, malin des équipes de France qui ont souvent déréglé ces Norvégiennes. Il y a ce côté revanchard certes, mais il y a surtout ce côté puissant, fort qu'elles ont montré, elles ne se dérèglent jamais. Mais il y a du côté français une espèce d'énergie, une joie de vivre qui s'est déclarée dès les premiers matchs, on les voit sourire, on les voit avoir confiance en elles. Cette confiance, cette capacité à dérégler cette grande machine, c'est peut-être ce qui fera la différence cet après-midi. On est tenante du titre quand même. On a gagné en France en 2018 ce championnat d'Europe. Pas question de laisser partir cette médaille.
Philippe Bana, coup d'envoi de cette finale de l'Euro de handball à 18h. La météo pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec les poulets de Loué. Par tous les temps, les fermiers de Loué élèvent leurs poulets en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Cet après-midi, le temps va rester à la pluie des Cévennes ardéchoises à l'est du Rhône en remontant vers l'Alsace. Les précipitations marquées en matinée du Vivarais au lac Léman et du Var aux Alpes-Maritimes vont faiblir en cours d'après-midi et il va neiger sur les Alpes à partir de 1500 mètres d'altitude. La Corse va conserver un temps ensoleillé, mais sur le reste du pays, l'ambiance sera plus variable, parfois entrecoupée de séquences d'averses, elles seront plus marquées en bord de mer. Ce soir, une perturbation va aborder la Bretagne. Demain, elle va apporter de la pluie et du vent sur la plupart des régions. Mardi et mercredi, il va continuer à pleuvoir, notamment sur une large moitié nord du pays. Les températures au-dessus des normales cet après-midi vont connaître un pic de douceur de lundi à mercredi avant de baisser sensiblement à partir de jeudi avec très probablement de la neige en pleine en fin de semaine.
Jean-Michel Golinski de Météo France.